RCF.
Namur, quand c'était la guerre. Recueil de témoignages sur Namur et les Namurois durant la Seconde Guerre mondiale. Une émission de l'ASBL Namur Initiative Citoyenne, soutenue par la province de Namur dans le cadre de l'appel à projet Territoire de mémoire, par la ville de Namur et par RCF Sud-Belgique. Bonjour à toutes et à tous, ici Richard Dessert de l'ASBL Namur Initiative Citoyenne. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Namur quand c'était la guerre. C'est la dernière émission avant Noël, donc la semaine prochaine et la semaine suivante, on quittera un petit peu les témoignages pour retrouver deux rediffusions d'émissions, l'une consacrée au rexisme à Namur et l'autre au bombardement du 18 août 44. Voilà, il faut bien faire une petite pause aussi de temps en temps. Mais cette semaine-ci, avant ça, on va se rendre au foyer Sainte-Anne. Vous vous en doutez, c'est pas actuellement que je m'y suis rendu avec les conditions sanitaires, mais c'était au mois d'octobre. J'avais été contacté par Virginie, l'ergothérapeute, qui avait eu la bonne idée de parler de notre projet à ses résidentes, puisque c'est exclusivement des femmes qui sont au foyer Sainte-Anne. Et eh bien, nous avons récolté là-bas 5 témoignages que nous allons vous faire découvrir. Alors aujourd'hui, on va commencer par le témoignage de Marcel Delache. Alors Marcel Delache, elle habitait Belgrade, rue Letcoupe, au moment où la guerre va commencer. Et elle va fêter ici le 28 décembre, elle va fêter ses 99 ans. Alors je vais vous demander un peu de compréhension. C'est vrai qu'ici l'enregistrement est un petit peu moins bon parce que Madame Delache a un peu de mal non pas à s'exprimer mais à faire porter sa voix, donc elle parlait tout doucement. Donc voilà, des fois il faudra vraiment tendre l'oreille pour bien écouter ce qu'elle avait à dire, mais malgré ça, ses souvenirs sont impeccables, donc c'est une histoire qui vaut le coup. Donc voilà, je vous demande de tendre un peu l'oreille, de admettre qu'il y a des petits grésillements parce qu'il a fallu porter le micro un peu plus fort. C'est évidemment, on n'a pas su faire autrement, mais vous verrez que le témoignage en vaut la peine. Et puis voilà, peut-être que vous aussi vous connaissez des gens qui, ou peut-être vous-même vous travaillez dans une maison de repos et ou de soins, et peut-être que ça pourrait aussi intéresser vos résidents. Évidemment, on doit attendre la fin de ces problèmes liés au coronavirus. Nous, on avait notamment prévu de récolter 5 témoignages au Laurier. J'avais déjà rencontré une première fois les résidents pour leur expliquer le projet, et voilà, j'avais noté la liste des personnes que je devais rencontrer. Malheureusement, tout ça est reporté, mais une fois que ce sera possible, on y retournera avec grand plaisir. Et donc voilà, on laisse aussi la porte ouverte peut-être à d'autres maisons de repos et ou de soins qui pourraient être intéressées par notre projet. Si vous souhaitez nous contacter pour témoigner ou pour faire savoir qu'il y a des personnes que l'on pourrait contacter, n'hésitez pas à nous joindre, soit sur internet, sur notre site internet www.namuranguerre.be, par email à l'adresse info@namurinc.be, info@namurinc.be, par téléphone au 0474 114 909, 0474 114 909, ou bien alors un petit courrier à l'adresse rue Moncrabeau 6 à 5000 Namur. Voilà, je vous laisse en compagnie de Marcel Delache.
Bon, le début de la guerre, chez moi, chez mes parents, à Belgrade. J'ai fait le ravitaillement, il fallait bien quelqu'un. Et puis la deuxième partie de la guerre, c'était plus la guerre, la même, c'était plus la même chose. Ce n'était plus la guerre vraiment comme on l'avait connue avant, en 40. J'ai fait mes études d'infirmière. Donc c'était la guerre, oui, mais en dehors. Mon père était au chemin de fer. Il avait passé la nuit de vendredi, donc à la déclaration de guerre. Et moi, je me trouvais à la maison, et brusquement, il était assez tôt le matin, après la première alerte, je vois une motocycliste bardée avec un casque là, qui atterrit sur notre trottoir. Et puis je le reconnais, et c'était l'ancien voisin de mes parents qui habitaient l'autre rue. Un certain lieutenant Gertz Fernand qui a été pendant longtemps, il a grandi en grade, il a été très longtemps un des responsables du roi quand ils sont partis en Allemagne. Mais ici, il venait me dire bonjour, voir si nous avions ce qu'il fallait. Et je me souviens qu'il a souligné que nous partions tout de suite, le plus vite possible, parce que la guerre va se passer le long de la Meuse et de la Sambre, et Namur est visé. Namur doit être détruite complètement. Bon, je l'ai cru. Mon père est revenu du chemin de fer, son travail, et nous sommes partis. Et donc, le 10 mai, j'ai vu ce lieutenant, et nous sommes partis le dimanche, le 12 mai. Et Namur n'a pas été détruit. Mais ça devait l'être vraiment. D'après l'état-major, Namur devait être supprimé. Enfin, on a eu de grosses alertes. Et on est parti quand mon père est revenu du travail, puisqu'il avait passé la nuit là au chemin de fer. Nous sommes partis par Templou, Spie, Ono Spie, la chaussée Nivelle. Bombardé, Templou était rasé. C'est une petite commune après Belgrade. Et puis de là, nous étions partis avec des amis, nous étions six. J'ai dit à mon père, on va changer de direction. C'est plein de soldats français. Et on tirait vraiment les avions à bord des toits, vraiment du rasmot. Nous avons quitté la chaussée et nous sommes partis jusqu'à Monceau-sur-Sambre. C'était la ligne. Et là, la gare brûlait encore quand nous sommes partis. On a continué. On est arrivé à Ouflet. On ne connaissait personne. Et ma mère regarde le tram. Et puis elle reconnaît un monsieur. C'est un autre ancien boucher, un ami, M. Gollard. Il partait, il nous a donné sa clé. Allez chez moi, ravitaillez-vous avant de partir, ce qu'on a fait. Et puis on a atterri, on est allé rejoindre tous les jeunes à tourner. Là, on a été bombardés. Tout ce qu'on pouvait, ils le jetaient. Et puis, de tourner, on ne connaissait personne. C'est une partie de la Belgique, au fond, très peu connue. Et puis tout d'un coup, vous allez rire, mais ça s'est passé comme ça. J'ai une inscription qui s'est faite dans mon cerveau, me donnant le nom d'une rue à Tournai. Et je dis, Tournai, comme ça, rue Paul Pasture. Et puis on y va. Ça existait. J'ai écrit que j'avais un don, mais non, c'est pas vrai. Et puis nous retournons au Paul Bastille. Et en effet, la personne avait des connaissances dans notre rue. Elle nous donne aussi sa clé. Prenez un bain, et puis demain vous repartirez. Ce qu'on a fait, le lendemain on se met en route. On arrive, après-midi, près de Calais. Il y a un petit ruisseau, pas grand, peut-être plus étroit que le ci. Et c'est là, à Coulogne, mon père crie, il descend du train pour se dégourdir un peu. Et il crie, je comprends pas, saute. Il y avait un train qui venait dans l'autre sens. Donc, nous étions en queue de train. C'était bourré. Il y avait des scouts, il y avait des religieuses. Et puis le train, une grosse locomotive arrive par derrière. On est pris au piège. 45 tués, 18 blessés, très graves, qu'on a évacués comme on pouvait. Et notamment une famille de Namur, dont les filles venaient au pensionnat avec moi. Le père était remonté pour prendre aussi une tasse de café jusqu'en ce train arrivait. Le père est tué, la mère, la tante et une petite gamine de 4 ans peut-être, étouffée par les grandes personnes.
Petit mot qu'on dit, qu'il sonne plus que jamais à vos oreilles, en vous il sommeille, voilà qu'il s'éveille, espoir. Il suffit de penser à lui, alors tout en nous rebondit, espoir. C'est lui qui pénètre en nos cœurs pour en prolonger le bonheur, espoir. Petit feu par moment voilé,
tu allumes le monde entier comme un brasier.
Espoir,
espoir, espoir.
De toi qu'on se nourrit,
bien mieux que de rôti.
Que belle, belle est donc la vie quand tu fleuris ce que j'écris ce soir, tu me séduis. Je t'ai choisi,
n'est-ce pas toi qui ris ici?
Si,
espoir, il est prouvé que l'envie d'espoir.
Pourquoi, monsieur, n'en pas avoir?
Pourquoi, madame, ne pas y croire?
Pourquoi n'en pas avoir?
Tous les jours noirs ont leur lendemain.
Les grandes histoires ont aussi leurs mains. Espoir, ça n'est parfois pas plus long qu'un soir.
Mais ça suffit pour s'apercevoir que chacun de nous a dans son tiroir pour quelques sous d'espoir.
On évacue les blessés, bien sûr. Et à l'hôtel, on dit, voilà deux bateaux qui se trouvent là. Ils passent pour l'Angleterre, prenez-les. Mon père hésitait. Il dit, non, je dois rejoindre un point fixe à Beuville, je crois. Ils avaient des points relais. Et les bateaux s'en vont. Le soir, on a un orage et un bombardement. Et le bateau sur lequel nous devions le trouver est coulé, avec tous les passagers. Il était bourré. Celui-là n'est jamais arrivé. Et puis nous avons continué. On était dans le train, il fallait marcher avec le train. Il n'y avait pas d'autre possibilité. Descendre en cours de route pour aller où? Il y avait ma passeport. Abbeville, Lisieux, toutes les stations. Et puis la carte de fin de transport affichait Limoges. Le train n'allait pas plus loin. Et puis arrivé à contre-ordre, non, vous continuez. Mais nous, la carte allait jusqu'à Limoges, après je ne sais pas où on allait. Et nous avons continué comme ça, jusqu'au matin, dans toute la nuit de l'accident. Et puis nous sommes arrivés à Toulouse. Et là, on devait descendre. C'était pas loin, pas tellement loin de la frontière française. On était à une centaine de kilomètres de Mouchon et on nous logeait chez l'habitant qui voulait bien nous ramener. Et nous sommes tombés sur une famille formidable, le maire du village, qui était un ancien officier de marine, mais qui ne vivait plus. La maison était très belle, un très beau jardin. Moi, je ne voulais plus revenir après ça. On avait bien à manger. Le pays était très beau, mais il a fallu revenir après 3 mois. Rendez-vous à Toulouse, prenez de la nourriture pour 3 jours. 10 jours plus tard, nous n'avions toujours pas de nourriture. Et on était là en train. Et puis à Montauban, on nous donne une gerbe, une botte de paille. Parce que c'était un wagon de transport de ciment. Et puis on arrive aux environs de Paris. Et là, après Paris, la gare est en arc de cercle. Il y a cette bourrée d'Allemands qui partaient au front. Tout était mis sur une ligne de partage. Les trains continuaient, tandis que nous, on restait là. Et il y a un train qui arrive comme ça, et un autre qui arrive comme ça, coupé en rondelles, à le tronc, mais juste devant nous, hein, comme vous et moi. La tête et l'autre, le tronc, ils sont tués tous les deux, évidemment. On nous enferme dans les wagons, pas sortir, pour enquêter, etc. Enfin, on repart quand même. Et voilà, on arrive quand même à Bruxelles. 10 mai, c'était au mois de mai, juin, juillet, au mois d'août. Nous arrivons à Bruxelles, et là, tenez-vous bien, tous les cafés étaient ouverts, et on dansait avec des Allemands, bien sûr. Et alors, nous avons soupé, et puis nous avons trouvé un autocar qui faisait la ligne directe vers le sud. Nous l'avons pris, il passait par Namur, et il a bien voulu s'arrêter à Belgrade, sur la chaussée. Et nous sommes redescendus à pied, 3 mois, près de cette montée. La maison n'avait rien, des verres cassés. Le chien vivait toujours. Il avait été nourri par le voisin, et il montait la garde. Il y avait eu beaucoup de Sénégalais qui étaient dans la région. Et puis la vie a repris. Nous n'avions rien de cassé, rien. Mais alors, une autre chose, il fallait assurer le ravitaillement, on n'avait rien. Et bien, j'ai commencé le ravitaillement. Pendant 3 ans, je descendais dans les Ardennes, plus bas que Libramont. Et je faisais le ravitaillement pour la famille. Ma mère ne savait pas vivre sans beurre. Elle voulait du pain blanc. Mon père l'a gâté. Madame a eu son pain blanc, son beurre, pendant toute la guerre. Et nous, on mangeait de la margarine. C'est comme ça. On en est sorti. Ou on était chercher une, je ne sais pas. La farine, chez un pâtissier qui avait connu mon père en allant regarder le football. À ce moment-là, c'était plein Saint-Nicolas. Et puis, c'est comme ça. Ils nous ont invités chez eux. Elle a eu sa farine. Et moi, j'avais, en faisant le trajet, j'avais eu des gens qui retournaient toujours au même endroit. Et j'étais bien tombée. Un garçon très gentil qui se présente. Voilà, je suis, comment vais-je vous dire, supérieur. Un super contrôleur du ravitaillement. Alors, quand il savait qu'on allait visiter les sacs, il nous disait, on changeait de sac pour qu'il ne trouve rien. Et comme ça, nous avons, oui, c'était quand même fraudé. Mais enfin, on payait ce qu'on prenait. Les gens, c'était un petit, tout petit village, plus loin que Bastogne. Ça s'appelait Grand Rosier ou Petit Rosier, je ne sais plus. Il y avait quelques habitants. C'était tout petit. Oui, je ne sais pas. Il n'y avait pas de halte de chemin de fer. C'était une voiture de voyageurs qu'on ouvrait. Le temps de prendre ce qu'on devait avoir. Il repartait. Et on repassait Namur sur un pont fait après par les Américains. Mais déjà en ce temps-là, les Allemands avaient refait sur des barques. Et on passait les rues dans l'eau. Moi, j'en avais une frousse terrible. Il n'y avait pas d'issue. Il n'y a pas eu d'accident. Ça, c'est ma vie avec le ravitaillement. Je connaissais toute la région, toute cette région-là à fond.
J'attends. autour. J'attendrai, car l'oiseau qui s'enfuit vient chercher l'oubli dans son nid. Le temps passe et court en battant tristement dans mon cœur plus lourd. Et pourtant j'attendrai ton retour. Les fleurs pâlissent, le feu s'éteint, l'ombre se glisse dans le jardin. L'horloge tisse des sons très là, je crois entendre ton pas. Le vent m'apporte des bruits lointains, guettant ma porte, j'écoute en vain. Hélas, plus rien ne vient.
Bien beau jour, tu dis, moi, je vais quand même faire autre chose, quelque chose d'utile. Et puis, on m'a demandé, il y a une jeune fille de Belgrade qui me dit, écoute, moi, je fais mes études d'infirmière à Bruxelles, à Kevel. Si tu veux, tu reviendras avec moi, je te présenterai à la directrice. Et voilà, j'ai fait 4 ans à Bruxelles. Là, je l'ai retrouvée aussi. Quelqu'un qui se cachait, c'était le prince Charles, qui se trouvait à Cavel. Et quand on vous dit dans les reportages, il est resté 4 mois là, 3 mois là, ce n'est pas vrai. Il a habité Cavel 9 mois sans sortir. Je sais bien parce que je l'ai vu, il avait sa chambre. Il souffrait de fureur oculose, il avait une peau très ingrate, il avait des moutons. Et alors, il avait belle fille, on le soignait. Le matin, ben, il avait la vue des infirmières. Il ne sortait pas. On venait lui rendre visite l'après-midi. Et bien bonjour, nous rentrions avec des copines pour 10 heures, on devait rentrer. Et on voit des personnes à l'entrée d'une porte. On passait devant, on ne l'aurait pas vu. Une porte en sous-sol. Et puis nous traversons la rue. C'était là la rue Antoine Lepage. Et c'était le roi qui venait rendre visite à Charles. Le roi et la reine Elisabeth, sans personne les accompagnant. Il n'y avait rien. Et puis quand ils ont discuté à la porte, ils n'étaient même pas rentrés. Il y a une voiture qui est avancée, qui était garée un peu plus loin. Ils sont montés en voiture. Ils nous ont fait signe. On ne savait pas où il était, mais il se cachait vraiment. Il était recherché par les Allemands d'ailleurs. Il y a des visites qui se faisaient. On visitait de même. Il était caché. On ne le disait pas. Il était peut-être en bas dans la cuisine. Et puis j'ai fait mes études en 4 ans. Et puis la dernière année, j'avais des examens et on fêtait la fin des examens. Nous étions au 4e étage, comme ici. Et j'ai vu mettre le feu, mais vraiment, je l'ai vu partir à bombardement, le Banusis. J'ai eu la flamme et la couronne dorée, tout ça. Voilà. Ma guerre était finie. Et puis je me suis mariée. Avec quoi? Avec un aviateur.
Que souhaiteriez-vous que les jeunes retiennent de cette période qu'a été la Seconde Guerre mondiale?
La façon de voir les choses a tellement changé. Les jeunes de 1940, c'est plus du tout la jeunesse de maintenant. Plus du tout, du tout. Je souhaite que ça ne recommence pas. Que ce soit celle que j'ai eue. Ma mère en avait eu celle de 18, mais qui était tout à fait différente. Qui est un peu moins d'égoïsme.
De manière générale, quel message souhaiteriez-vous adresser aux jeunes?
Il est temps qu'ils changent leur façon de voir. On ne dit pas qu'il est trop tard, mais il y a trop peu de générosité, sûrement.
Et voilà donc pour le témoignage de Marcel Delache, qui va fêter ses 99 ans ici le 28 décembre. Vous voyez, elle avait un peu de mal à porter sa voix, donc il fallait bien tendre l'oreille. Mais je pense que le témoignage était quand même très très intéressant et je ne doute pas que ça vous a intéressé vous aussi. Les deux semaines prochaines, les semaines de Noël et de Nouvel An, nous sommes en rediffusion, donc ce n'est pas des témoignages que vous entendrez, mais des émissions que j'avais préparées l'année passée pour RCF. Il y en a une sur le rexisme à Namur et une sur le bombardement du 18 août 44, donc évidemment on reste dans le domaine de la guerre à Namur, même si ce ne sont pas des témoignages. Et puis, après ces deux semaines de pause, on va dire, vous redécouvrirez des témoignages qui ont été enregistrés au foyer Sainte-Anne. Voilà, pour le petit programme. Et si voilà, vous souhaitez témoigner ou si vous connaissez des personnes qui souhaiteraient témoigner, vous ne devez pas hésiter à nous contacter. Soit le plus facile sur notre formulaire, sur notre site internet www.namurenguerre.be. Vous pouvez aussi nous envoyer un mail à l'adresse info@namurinc.be, info@namurinc.be. Nous téléphoner au 0400 74 114 909, 0474 114 909, ou bien encore nous envoyer un petit courrier à SBL Namur Initiative Citoyenne, rue Moncrabeau 6 à 5000 Namur. Mais moi évidemment, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, une bonne année, et je vous dis à dans 15 jours!